Coulisses politiques avec Henri Vernet.
2020-2026, quelles leçons avons-nous tirées du Covid-19 au moment où le gouvernement applique le principe de précaution face à l'antivirus? Depuis quelques jours, les Français entendent des mots qu'ils pensaient appartenir à un passé révolu. Cas contact, règles de confinement, stock de masques, réunions à Matignon. Pas d'inquiétude à ce stade, le risque global reste faible, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé dimanche. Mais au cours de ce week-end, un premier cas de virus Ebola a été confirmé à Goma, en République démocratique du Congo. Sur le virus Ebola, l'OMS a déclaré une urgence de santé internationale. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, RadioOrient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour Henri.
Bonjour Loïc.
Alors, l'antivirus est un virus mortel. Il fait l'objet d'une surveillance mondiale parce qu'il s'est déclaré parmi les passagers d'un navire de croisière. Les passagers ont rejoint leur pays d'origine. L'OMS recommande une surveillance de 42 jours pour les personnes exposées. Mais chaque État interprète différemment le niveau de risque. Le gouvernement français a décidé d'une quarantaine renforcée en milieu hospitalier pour tous les cas contacts, alors que d'autres pays ont préféré des règles moins dures comme l'auto-confinement. Et puis il y a aussi ce virus Ebola qui revient au centre de l'actualité. Mais on va parler d'abord de l'antivirus. Je vous propose d'écouter la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.
Il y a des choses qu'on sait sur ce virus, et c'est plutôt une bonne nouvelle, virus connu depuis les années 90, un virus qui a une transmission interhumaine, un virus qui peut rendre malade, très malade, voire faire décéder les patients. Mais il y a aussi, et vous l'avez dit, des choses qu'on ne sait pas sur ce virus, par exemple le lieu où la première personne décédée a eu le virus, ou par exemple, nous n'avons pas encore totalement l'entièreté du séquençage du virus qui nous permet de dire avec certitude aujourd'hui, même si on est à ce jour plutôt rassuré, nous n'avons pas la certitude de dire que ce virus n'a pas encore muté.
Alors on a entendu Stéphanie Rist, la ministre de la Santé. Autre déclaration, celle de Thomas Ménager, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale.
Alors, le gouvernement, parce que nous, on cherche pas à polémiquer, je pense, a pris les bonnes mesures, c'est-à-dire une vraie fermeté avec une mise en quarantaine à l'hôpital, ce qui était une nécessité.
Ça
nous convient. Par contre, cette inquiétude qui existe autour de l'antivirus aujourd'hui nécessite qu'on tire un petit peu plus le bilan de la gestion catastrophique, on peut le dire, du Covid-19, où le gouvernement macroniste de l'époque et les gouvernements qui sont succédés n'ont pas été dans la transparence. C'est la raison pour laquelle, avec mon groupe, en tant que vice-président de la Commission des affaires sociales, j'avais demandé l'audition de Stéphanie Rist hier, qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, force est de constater qu'on n'est pas totalement rassuré sur la préparation de la France, parce qu'elle a refusé de donner le nombre précis de masques que nous avons actuellement en stock, la date de péremption, les lieux de fabrication, pareil pour les blouses, les surblouses. Et donc, on ne sait pas, certains disent en off que c'est parce que il y a une situation géopolitique qui interdit de donner les chiffres.
Alors, Henri Vernet, vous avez suivi de près la période du Covid-19 qui est dans toutes les mémoires. Emmanuel Macron était déjà président. Et j'imagine que l'actuelle ministre de la Santé, Stéphanie Rist, doit beaucoup penser à ses prédécesseurs, Agnès Buzyn et Olivier Véran. À ce stade, rien ne permet d'établir un parallèle entre l'antivirus et la pandémie de Covid. Et les derniers communiqués de l'OMS sont plutôt rassurants. Pourquoi est-il utile de se replonger dans la gestion de la crise du Covid-19 au moment où on parle de l'antivirus et aussi du virus Ebola?
Justement, pour voir quelles conséquences, quelles leçons ont pu être apprises ou pas. Alors, soyons clairs, hein, aujourd'hui, alors où nous enregistrons cette émission, la crise, elle semble quand même nettement sous contrôle et en effet d'une ampleur, disons, beaucoup plus maîtrisable que ne l'était le coronavirus. Alors, c'est vrai que c'est quand même important, en effet, de faire cette comparaison et justement pour voir ce qu'il y a de différent et comment on peut agir, notamment beaucoup plus en transparence. Et c'est ce qui est revenu dans les deux interventions qu'on a entendues. D'abord, celle de la ministre, Stéphanie Rist. Ce qui était quand même frappant dans ce qu'elle a dit, c'est le côté, il y a des choses qu'on sait, et elle les a exposées, mais elle a bien précisé d'emblée qu'il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que ce qui avait caractérisé les débuts vraiment de la pandémie de Covid-19, c'est qu'il y a eu beaucoup à la fois d'hésitations, d'avancées puis de reculades, mais aussi nombre de déclarations assez péremptoires. Et puis un retard de l'allumage. Pendant longtemps, en quelque sorte, il y a eu une espèce de distanciation par rapport à la crise, par exemple au moment. Ou alors évidemment, tout est venu de Chine, on s'en souvient, avec néanmoins des incertitudes sur l'origine du virus, sur sa contagiosité. Ce n'est que quand même qu'au bout d'un certain temps qu'on a vu à quel point cette contamination aérosol était donc vraiment par simple présence et non pas contact rapproché était dangereuse. Bref, des hésitations là-dessus, mais du coup dans la conduite à tenir. Et quand même, là vous avez cité des noms, mais Agnès Buzyn, qui était donc ministre de la Santé à l'époque, elle intervient, elle donne son jugement aujourd'hui, mais elle reconnaît elle-même que dans cette première crise, il y avait eu pas mal d'hésitations, par exemple sur le port du masque. On se souvient les espèces de palinodies du gouvernement à l'époque, entre la porte-parole Sibeth Diagne, rappelez-vous, qui était venue de manière très péremptoire dire aux Français « Non, il n'y a pas besoin de masque, ce serait même... » Et puis elle était appuyée par d'autres ministres, disons que... Certains experts scientifiques et médicaux qui disent non, ce serait même contre-productif. Et puis on s'est assez vite rendu compte qu'en réalité, ce discours gouvernemental, il s'adaptait davantage à une réalité qui était tout simplement que la France n'avait pas de masque. Alors que l'OMS, au moment où la France disait ça, l'OMS avait déjà recommandé, émis une recommandation sur le port du masque.
Vous parlez des experts en santé publique qui sont intervenus. Il y a eu aussi beaucoup, me semble-t-il, de confusion entre, d'un côté, la parole des dirigeants, des ministres, d'Emmanuel Macron, du Premier ministre de l'époque, et puis aussi les experts de plateau qui parfois contredisaient ce que les autorités disaient. Ça aussi, c'est quelque chose qui a marqué la crise sanitaire.
Oui, absolument. C'était vraiment cette parole débridée et en effet dans des sens contradictoires. Les experts se contredisant d'ailleurs eux-mêmes. Alors, il faut aussi rappeler que cette crise, elle a duré longtemps. Le Covid-19, ça a duré, en plus avec des confinements, des mesures vraiment quand même vraiment spectaculaires et importantes. Et le tout est allé, ou c'est ça, sur deux ans, entre disons 2020 et 2022. Et puis des experts, parfois, au fil de la crise, c'était même devenu gênant, voire dangereux, les contradictions qu'il y a pu avoir. Par exemple, on se souvient des polémiques autour du fameux docteur Raoult de l'hôpital de la Timone à Marseille, un expert dans son domaine, néanmoins très controversé, et par exemple qui avançait des idées de traitement qui n'avaient pas du tout été agréées par l'ensemble de la communauté, mais enfin, auquel à un moment Emmanuel Macron était allé rendre une sorte d'hommage en allant lui rendre visite dans son hôpital. Mais donc, après, évidemment, il y a eu toutes les controverses sur les vaccins qui ont été là, quand je parle de gravité, c'est là, parce qu'il y a vraiment eu des prise de position de la part, là encore, de certains experts tout à fait diplômés, tout à fait a priori compétents, mais qui se sont élevés vigoureusement contre la vaccine et contre les différents vaccins anti-Covid, ce qui fait qu'en effet, le public avait un peu de mal à s'y retrouver. Là, pour revenir quand même aux leçons de la crise du Covid aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est donc d'une part une ministre qui dit non, il y a des choses qu'on ne sait pas. Quand même, deuxièmement, une réactivité vraiment importante et du coup une adaptabilité parce que par exemple, si on prend la gestion des débuts de l'antivirus, quand les cinq passagers français du bateau arrivent à l'aéroport du Bourget le dimanche soir, il est juste question de les confiner en gros 72 heures à l'hôpital. Alors sauf évidemment pour l'une des passagères, une patiente qui s'avérera gravement malade et qui, elle, donc, est vraiment hospitalisée. Mais en revanche, les autres, allez, 72 heures à l'hôpital et puis confinement chez eux. Et tout juste parlait-on, donc, en ce tout début de crise, des 22 cas contact, c'est-à-dire 8 d'une part, 14 de l'autre, qui étaient passagers de deux trajets qu'avaient également emprunté des personnes malades du bateau. virus. Et tout ça a évolué vraiment vite, d'une part avec la ministre elle-même qui a intervenu au journal télévisé le dimanche soir, puis le lendemain matin sur France Inter pour dire que la patiente malade avait vu son état se dégrader considérablement à Bichat, que du coup tout le monde était confiné, enfin tous les autres passagers étaient confinés mais durablement, qu'on s'orientait plutôt vers 42 jours de confinement et non pas chez soi mais justement dans la structure hospitalière, en l'occurrence Bichat, 42 jours parce que c'était la durée, parce que là aussi ils avançaient tous en marchant, 42 jours il était apparu que c'était la durée d'incubation probable. Bref, on a vu vraiment une procédure qui s'est durcie tout au long de ces 48 heures. On a vu un gouvernement prendre le dossier à cœur avec un Sébastien Lecornu, Premier ministre, tenir deux réunions quotidiennes au niveau des cabinets avec les différents ministres à Matignon et évidemment entouré d'experts. Également, la ministre tenir une conférence de presse entourée de scientifiques, épidémiologistes, immunologues, spécialistes des maladies tropicales, enfin venus vraiment, et surtout des maladies zoonoses, c'est-à-dire venues du monde animal. Bref, et surtout tout cela était dit, donc une grande transparence. Donc là, on était quand même en effet dans le contraire des débuts calamiteux de la gestion gouvernementale du Covid.
Je vous propose à présent, Henri, d'écouter un député, par ailleurs médecin. Il s'agit de Jean-François Rousset, interviewé par François-Xavier de Calonne.
La réactivité d'abord de l'OMS au niveau international a été rapide et très précise. C'est-à-dire que des moyens ont été mis pour isoler ce bateau, détecter les cas contacts, identifier le virus et proposer à tous les gouvernements de tous les pays qui avaient des ressortissants sur ce bateau de se projeter dans une prise en charge après le débarquement des passagers. Et pour ce qui concerne l'État français, Stéphanie Ries et le gouvernement, très tôt, elle a mis en œuvre des moyens d'isolement des malades, puisque les malades qui étaient a priori sujets contacts ont été transférés de façon surveillée dans un avion non commercial, qui ont permis de mettre en surveillance les 7 malades qui étaient a priori cas contact et malheureusement mettre en soins intensifs la patiente qui est malade. D'ailleurs, je souhaite pour elle un prompt rétablissement et je tiens à remercier les soignants qui sont face à cette situation et qui anticipent peut-être une évolution de la maladie. Pour le reste, on va être très transparent sur toutes les décisions qui ont été prises, c'est-à-dire identifier, isoler, traiter afin de couper toute possibilité à ce virus de se transmettre. Et ensuite, c'est l'occasion de rappeler que bien que la Covid rappelle des souvenirs pas très réjouissants, difficiles, eh bien, il faut continuer ou recommencer à se laver les mains, porter des masques si la situation l'exige et à être assez vigilant sur les symptômes.
Alors, on vient d'entendre Jean-François Rousset, député Renaissance, parler très clairement de transparence. Il commence d'ailleurs par souligner le rôle positif joué par l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, ça aussi, c'est une grande différence par rapport à 2020, donc la crise Covid. On avait reproché plusieurs choses à l'OMS, et d'ailleurs à commencer par Agnès Buzyn, la ministre française elle-même, une certaine opacité, une collusion carrément avec les autorités chinoises, parce qu'on sait que donc ce virus venait de la ville de Wuhan. Alors il y avait des doutes, est-ce que c'était une contamination d'origine animalière, le fameux pangolin, est-ce que c'était la fuite d'un virus d'un laboratoire dans cette ville, d'ailleurs un laboratoire lié à Pasteur, me semble-t-il. Ça n'a toujours d'ailleurs pas été réellement réglé comme origine, mais donc une organisation qui a tâtonné pendant de longues semaines et donc évidemment qui n'a pas aidé à la prise en charge rapide. Néanmoins, ça n'a pas été si long que ça, parce que je le disais tout à l'heure, des recommandations de la part de l'OMS telles que le port du masque sont quand même venues relativement tôt, et en tout cas bien avant que la France ne les applique. Les ministres ont beau charger, charger l'OMS à l'époque, c'est surtout, encore une fois, les carences françaises qui s'exprimaient là. Et d'ailleurs, ces carences-là, on les reverra ensuite en matière de tests. Les tests de dépistage, des pays les ont entamés, les ont commencés bien plus tôt que la France. Je pense à l'Allemagne. Moi, je me souviens que j'étais allé en reportage en Allemagne à ce moment-là, où ils réalisaient leur premier test PCR. et c'était vraiment des semaines avant la France. Donc bon, il y avait tout cela. C'est vrai que là, l'OMS a tout de suite, ben, par exemple, on a vu des envoyés de l'OMS hein, à l'œuvre à Tenerife, hein, aux Canaries, quand les premiers tests, les premières prises en charge des passagers du bateau ont été effectuées. Les recommandations sont apparues de beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus coordonnée. Alors après, l'OMS, elle émet des recommandations, donc tout le monde n'est pas obligé de les suivre. La France l'a fait bien évidemment, ajoutant peut-être son propre protocole. Les autres pays européens aussi, encore que peut-être qu'on le verra, mais tous les pays européens dans un premier temps concernés en tout cas, puisque 23 nationalités étaient présentes sur le bateau, bon, les ont globalement appliquées. Mais c'est vrai qu'en revanche, un pays comme les États-Unis, qui d'ailleurs a quitté l'OMS depuis un an, en quelque sorte, n'en a fait qu'à sa tête avec son propre protocole.
Henri Vernet, la France était allée très loin dans les mesures liées au confinement à l'époque du Covid-19, mais avec des décisions que les Français ont souvent jugées inefficaces, parfois même absurdes, voire inhumaines. Je pense aux restrictions concernant les visites aux personnes en fin de vie ou lors des obsèques. Il y avait aussi ces attestations que chacun devait remplir en cas de contrôle. Au début, les librairies faisaient partie des commerces non essentiels, puis le gouvernement a accepté de les laisser ouvertes. Ce qui a le plus choqué, me semble-t-il, c'était l'instauration d'un pass sanitaire, sans oublier les horaires fluctuants des couvre-feux. A-t-on vraiment fait un bilan de ce qui s'est passé ? Est-ce que le gouvernement a tiré des leçons qui pourront nous servir pour de prochaines crises sanitaires ?
Alors, il y a deux choses là. Est-ce qu'on a étudié cela ? Oui, il y a eu des commissions d'enquête parlementaires. Hein, on a tendance un peu à l'oublier. Il faut se souvenir, par exemple, qu'Agnès Buzyn, dont on parlait, elle a même été mise en examen devant la Cour de justice de la République. Alors, c'est tombé. Hein, en 2023, cette mesure a été reportée. Édouard Philippe, hein, Premier ministre, pendant une grosse partie des confinements, de la pandémie, donc avant d'être remplacé par Jean Castex, qui lui justement sera le Premier ministre du déconfinement, ce qui l'avait rendu évidemment beaucoup plus populaire, mais lui aussi avait été auditionné. Enfin, il y avait vraiment eu une enquête, et puis évidemment, nombre de responsables scientifiques également. Donc il y a eu ces commissions d'enquête. C'est vrai, vous avez raison de souligner qu'il y a eu des rébellions, mais vous savez, comme on dit, les Gaulois réfractaires, hein, peut-être, ces Français qui ont mal accepté, ils étaient très nombreux, qui ont mal accepté toutes ces mesures. Moi, je me souviens, j'étais au Parisien, on avait fait une interview d'Emmanuel Macron, c'était en tout début, en janvier 2022, donc on était encore dans les suites de cette pandémie, et sur ce sujet-là, Macron avait dit à propos de ceux qui donc refusaient de se faire vacciner, mais en même temps prétendait mener une vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire sortir, avoir des contacts, il était question de les restreindre, de les réfréner, et Macron avait dit, ceux-là, les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder. Et donc, évidemment, ça avait fait un tollé, mais c'est vrai que ça répondait à cet état d'esprit. On a du mal à supporter. Nous, on est dans des sociétés de liberté. On vit quand même dans des sociétés où, notamment, la libre circulation est la règle, disposer de soi-même, c'est la règle. Donc évidemment que toute contrainte, en plus un virus, c'est invisible. Et autant il a été meurtrier, vous avez parlé des EHPAD, et ça c'est vrai que ça a été assez déplorable, je ne sais pas, mais en tout cas poignant, ces personnes âgées, isolées, qui sont vraiment décédées sans avoir, sans nombre de gens soient allés leur dire au revoir, les parents, etc. Donc oui, il y a eu sans doute vraiment des excès, pas que dans notre pays, mais alors c'est vrai que par exemple les États-Unis, c'était déjà Trump qui était encore président à l'époque, les États-Unis avaient refusé certaines de ces mesures, en quelque sorte cohabité les deux. Moi je me souviens, j'étais à Washington au moment justement de l'élection entre Biden et Trump à l'automne 2020, et c'était un énorme débat. Je me souviens d'une banderole à la Maison Blanche qui chaque jour changeait avec le nombre de morts aux États-Unis, et c'était considérable parce qu'une partie du pays appliquer les consignes et l'autre absolument pas, parce que c'est un pays où la liberté est encore plus importante. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile, d'appliquer toutes ces règles-là. Néanmoins, est-ce que ça a été efficace? On peut quand même le penser, parce que certes, il y a eu beaucoup de morts. Je crois qu'en France, dans la première vague, ça a été de l'ordre de 50 000 décès. Si on prend le total, donc avec les cas associés, je crois qu'on dépasse les 100 000 sur l'ensemble de la crise, donc sur les 2 ans. En Italie, ça a fait des ravages. L'Italie a été touchée avant nous. C'est là, d'ailleurs, qu'on a constaté un peu le retard à l'allumage dont je parlais de la France, alors que le pays voisin était frappé. On a mis du temps à confiner. Enfin, tout cela donc a été examiné. Alors, il y a eu donc eu ces commissions d'enquête. Il y a eu quand même évidemment des débats entre experts, entre responsables scientifiques et médicaux. Est-ce que toutes les conséquences en ont été tirées? Là, ces derniers jours, je discutais avec à l'occasion d'un débat, je discutais avec l'un d'eux qui me disait non, pas forcément une épidémiologiste qui reconnaissait que pas forcément tout a été tiré au clair. Néanmoins, là, la gestion de cette crise montre que quand même des leçons ont été tirées, ce que d'ailleurs est la première à reconnaître Agnès Buzyn.
Henri Vernet, si une pandémie survenait aujourd'hui, l'État aurait-il les moyens de faire face financièrement? Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron a aidé l'économie à tenir, mais la droite accuse aujourd'hui le chef de l'État d'avoir aggravé l'état des finances publiques.
Mais ça, bien sûr. Mais enfin là, quand même, ça touche à d'autres aspects d'une crise sanitaire de grande ampleur, donc type Covid, parce que ça veut dire le quoi qu'il en coûte, c'était quand même toutes les mesures de compensation pour le fait que l'économie s'était arrêtée, tout simplement, ou en tout cas extrêmement ralentie du fait des confinements successifs et assez longs. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, non, on pourrait vraiment pas se permettre un quoi qu'il en coûte. Il suffit de voir la difficulté de l'État, du gouvernement, à répondre à la crise du carburant, du prix de l'essence, quoi, tout simplement. On n'en aurait pas les moyens. Est-ce que d'autres partis aux manettes auraient fait mieux? Ça reste à voir. C'est l'éternelle question. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Donc ça, ce sera peut-être malheureusement la réponse à une prochaine crise sous un autre gouvernement après 2027. Parce que, d'ailleurs, j'en profite pour dire que justement, parmi les infectiologues, immunologues que j'ai vraiment vus ces derniers jours, l'un m'a dit qu'en fait, en réalité, cet antivirus, cette crise-là, qui donc pour l'instant semble maîtrisable, un nombre assez restreint de à la fois de malades et de cas contacts. Alors certes, beaucoup de pays, et c'est ça qui en fait un cas d'école, et puis un cluster vraiment bien délimité au départ, et puis avec ces différents vols internationaux donc qui a pu se répandre, il disait que c'est vraiment une espèce de répétition générale. Parce que oui, il y aura d'autres crises sanitaires, et ça, les différentes autorités le disent, il y aura d'autres pandémies, forcément, parce que dans notre monde, on circule de plus en plus, parce que il y a aussi tout simplement le changement climatique, les déforestations qui font que les zoonoses qu'on ne connaît pas bien, elles sont d'autant plus, non pas faciles, mais enfin, elles sont contactables par des humains qui se retrouvent plus facilement, plus directement à ce contact-là. Donc, est-ce qu'on aura les moyens? Forcément, il faudra prendre des mesures contraignantes, mais en tout cas, oui, cette répétition générale, disons, permet de savoir ce qu'il faut faire. Évidemment, les 2 ans de crise majeure de la pandémie de Covid ont laissé leurs enseignements. Donc, malgré tout, on est mieux préparé. Moi, je constate quand même que oui, il y a ces remarques de vous citiez le Rassemblement national et d'autres. Néanmoins, l'ERN, comme d'autres partis, la plupart des formations politiques, il y a eu aussi des critiques de Jean-Luc Mélenchon, disant que finalement, on ne planifie pas assez. Ça rejoint votre question. C'est-à-dire que c'est vrai que pour anticiper, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix politiques. Et qui dit choix politique dit choix budgétaire, choix financiers. Alors peut-être qu'on ne les fait pas suffisamment. Par exemple, est-ce que y aurait assez de lits dans les urgences, dans les services d'urgence? Non, pas forcément. Il n'y en a pas davantage que pendant la crise, pendant la pandémie de Covid. Est-ce que l'hôpital est beaucoup mieux équipé? Là encore, un médecin me disait que non, pas beaucoup mieux équipé. Donc là aussi, peut-être qu'il faudrait une politique de santé plus affirmée, mais ça veut dire plus coûteuse. Et donc ça, bah, oui, il faut sans doute un, non pas un consensus, mais en tout cas une majorité politique forte. Et surtout, quand on fait des choix, il faut s'y tenir. Hein, parce que, par exemple, l'exemple des masques, il est parlant. C'est vrai que là, on se rend compte que, bah oui, Stéphanie Rist, elle a eu du mal à dire le nombre, que finalement, quand on sait le nombre, alors on nous dit, oui, il y en a pour 3 mois, il y a environ 2 milliards de masques entre les FFP2 et les simples masques chirurgicaux. Sauf qu'on sait qu'il y en a des centaines de milliers qui sont périmés, et que donc les 3 mois, c'est pas sûr. Et surtout, bah, par exemple, un Philippe Juvin, hein, député LR, mais également médecin, également spécialiste de ces questions, il dit que non, c'est pas 2 milliards, il en faudrait 7 ou 8 milliards. Et d'ailleurs, la Cour des comptes elle-même avait fait une telle évaluation. Donc, bien sûr que là aussi, il y a davantage d'efforts, de financement, de anticipation, voire de planification. Oui, c'est un débat. Et clairement, la santé et l'amélioration du système de santé, ce sera un enjeu de la campagne 2027.
Merci. C'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.